pour l'environnement, l'ASI. Donc, Monsieur Allard, vous êtes ingénieur en génie civil et urbanisme. Hein, vous avez obtenu votre doctorat en physique du bâtiment à l'INSA de Lyon, voilà, thèse d'État, etc. Donc, depuis 1992, vous êtes professeur à l'Université de La Rochelle. Vous avez assuré tour à tour les fonctions directeur, fondateur du département génie civil et mécanique, directeur et fondateur de l'EPTAP. Un laboratoire, vous nous direz ce que c'est. Et puis l'ASI, laboratoire des sciences de l'ingénieur pour l'environnement. Et en 2012, directeur de l'UFR Sciences et Technologies, puis vice-président chargé de la recherche et de la formation doctorale de 2008 à 2012. Je vous remercie beaucoup d'être présent malgré votre emploi du temps très chargé. Donc on a déjà discuté des possibilités de travailler ensemble sur le changement climatique. On va organiser un forum sur le climat. Donc là, vous m'avez dit tout à l'heure, je vais faire quelque chose d'assez général qui n'est pas scientifique dans le sens où vous n'aurez pas peut-être de croquis, etc. Voilà. Donc j'ai dit au contraire, c'est ça qu'il faut. Il faut parler des enjeux. Les enjeux sont très importants. Les enjeux énergétiques et environnementaux de la construction. Voilà. Quelle sera peut-être votre maison de demain ou la maison de nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Merci beaucoup, monsieur Allard. On vous écoute. Merci.
C'est un plaisir pour moi d'abord d'être ici parce que... pour discuter ensemble de ces problèmes d'enjeux énergétiques, environnementaux, et notamment ceux qui sont portés aujourd'hui par le secteur de la construction et notamment les bâtiments. Donc, ce que j'ai prévu de discuter avec vous, c'est plutôt les aspects contexte, les stratégies en Europe. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe a vraiment un leadership aujourd'hui dans ce domaine-là. Et ce secteur est un secteur privilégié finalement, enfin, c'est ce que je vous expliquerai, de toute politique énergétique ou environnementale compte tenu de son poids, notamment au niveau européen. Donc les enjeux au niveau des politiques sur ce qu'on appelle les Nearly Zero Energy Buildings, c'est-à-dire la mise en place en Europe, le développement de bâtiments dont le bilan énergétique annuel est négatif ou proche de zéro. Les enjeux de leur habitation, qui est l'enjeu sociétal le plus important. Et puis un petit flash sur la situation en France. Et puis les problématiques scientifiques qui peuvent être liées à ce domaine. Voilà. Alors bon, tout d'abord, je vais vous parler de choses que vous connaissez déjà, je suppose tous. Hein, parce que, en fait, c'est le cadre qui est donné à notre réflexion. Donc le cadre le plus important aujourd'hui pour nos sociétés, en fait, hein, c'est l'évolution du climat. Donc vous savez que très récemment, il y a eu le dernier rapport du GIEC là, qui vient de sortir et qui, finalement, conforte les hypothèses qui avaient été émises jusqu'à présent. Et c'est ce que montrent un petit peu ces courbes-là. Vous voyez que sur ces courbes, on a tracé les gradients d'évolution en fonction, finalement, des années pour lesquelles étaient... fait ses pronostics, si vous voulez. Alors, ce que vous voyez, c'est que le gradient, la pente, elle se redresse de façon très, très importante sur les dernières années. Et malheureusement, eh bien, là, ça s'arrête au début des années 2000, mais on a continué dans ce sens-là. Donc, sur le siècle dernier, l'augmentation, c'est à peu près 3/4 de degré. En France, on est beaucoup plus proche de 0,9 1 degré, d'ailleurs, hein, sur le siècle passé, au niveau d'évolution du climat. Alors, on a toujours du mal à imaginer ce que représentent ces enjeux, disons, de changement climatique, 1 degré, etc. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la dernière période de grande glaciation du Quaternaire, c'est-à-dire quand la calotte glaciaire arctique arrivait au niveau de Paris et Londres, l'écart de température moyen sur la Terre, c'était simplement moins 4 degrés par rapport à maintenant. Voilà. Ça donne une idée, finalement, hein, de l'impact qu'ont ces variations, finalement, sur l'évolution. Alors, un grand débat qui n'était pas tout à fait scientifique ces dernières années, mais qui aujourd'hui, je pense, est résolu, c'était justement c'était d'essayer de trouver finalement le facteur impactant. Hein, et en fait, aujourd'hui, ce qui est avéré, c'est que c'est les dégagements anthropiques, c'est-à-dire dus à l'activité humaine, de gaz à effet de serre, et essentiellement le CO2. Hein, c'est ce que montrent ces courbes-là. Qui montre une corrélation, alors si vous avez dans votre thèse des corrélations de ce type-là, c'est pas mauvais, hein, entre la variation de température et les variations de CO2. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un fait avéré, je crois qu'il est plus contesté. Hein, ce sont bien les émissions anthropiques, hein, qui, finalement, participent eh bien, l'élévation de température par un phénomène d'effet de serre. Alors bizarrement, le CO2, ce n'est pas le gaz le plus important d'un point de vue effet de serre dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau, d'accord, qui fait d'ailleurs que notre planète est vivable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vapeur d'eau, le taux dans l'atmosphère est régulé par le cycle de l'eau. C'est-à-dire que, ben, comme aujourd'hui, hein, vous avez une image de la condensation qui induit des pluies. Et de cette façon-là, finalement, la teneur en vapeur d'eau n'a pas tellement évolué, elle. Alors que cette teneur additionnelle en CO2, le CO2 a des bandes d'absorption, si vous voulez, autour de 10 et 20 microns. Donc ça veut dire qu'il est, il absorbe pas mal d'énergie, hein, dans ces bandes-là. Et donc c'est lui qui est responsable essentiellement de cette élévation de température. Alors le bilan, on peut le faire à la hache, un petit peu comme je l'ai fait ici. C'est-à-dire à peu près depuis 200 ans, ben, on a rejeté dans l'atmosphère, du fait de l'activité anthropique, hein, ce que la nature avait mis 600 millions d'années à piéger. En gros, voilà. Ça donne des ordres de grandeur. Et ce phénomène est durable. Alors, si on regarde les constantes de temps des différents phénomènes, la stabilisation des concentrations en CO2 après, disons, une mesure qui limiterait son émission, l'ordre de grandeur, c'est le siècle, la constante de temps. Voilà. Et puis, les effets inhérents à ce changement climatique, c'est la stabilisation des températures. Et là, la constante de temps, elle est plus longue que celle du CO2. Et puis si on regarde au niveau de l'évolution du niveau de la mer, qui est un effet secondaire important, et moi qui habite à La Rochelle, il faut qu'on s'en méfie, hein, ben vous voyez que là, c'est encore beaucoup plus long, hein, c'est plusieurs siècles, voire un millénaire. Voilà. Donc ce sont des phénomènes qui malheureusement sont durables. Et les perspectives aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait influer finalement là-dessus? Alors il y a différents types de stratégies qui ont été faites par le GIEC, qui est un groupement indépendant de scientifiques sur l'étude du climat, hein, c'est de voir finalement si chacun fait ce qu'il veut. D'abord, si on continue un petit peu comme aujourd'hui, le tout fossile, vous voyez que là, aujourd'hui, l'élévation de température, c'est au-delà de 4 degrés. Cette dispersion, en fait, hein, ce que je veux dire, il y a une étude qui avait été faite par des collègues de Montréal il y a quelques années sur ces modèles-là. Tous les modèles sont consistants. Ce qui différencie les résultats, c'est tout simplement les hypothèses qui sont prises sur finalement l'évolution économique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va gérer finalement les problèmes d'énergie. Alors si on est sur le tout fossile, 4 degrés. Hétérogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concertation entre les États, chacun fait comme il veut, et chacun se débrouille pour faire un petit peu quelque chose. Vous voyez que ce n'est pas une solution non plus. Le mix énergétique, s'il est fait sans grande cohérence entre les États, ou même le tout UNR, énergie renouvelable, ben, n'est pas suffisant, finalement, limité. Le seul scénario, c'est ce qu'on appelle le scénario convergent, c'est-à-dire c'est vraiment une réflexion de l'ensemble des États sur des politiques énergétiques et la limitation des émissions au niveau de la planète. Voilà. C'est-à-dire ce problème, il est vraiment, il nous appartient à tous, et on n'aura pas de solution si on travaille tous ensemble. Si on ne travaille pas tous ensemble. Et là, vous voyez, même dans le meilleur des cas, hein, qui serait le cas rêvé, c'est-à-dire tout le monde se met d'accord, et puis on avance ensemble vers des stratégies drastiques et immédiates. Il faut vraiment démarrer tout de suite. On est même très en retard. Eh bien, on arrive à autour de 2 degrés. Alors, la solution unique, c'est celle-là. C'est une réduction drastique des émissions dans les quelques décades, une dizaine d'années qui viennent. De façon, en fait, il faut le lire à l'envers, ce diagramme. C'est-à-dire, si on veut limiter le niveau de température à ce qu'aujourd'hui, on estime acceptable, tenu des technologies maîtrisées, etc., et de ce qu'on pourrait mettre en place. Il faudrait se limiter à 2 degrés et demi. C'est le consensus aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut stabiliser les concentrations de CO2 autour de 550 ppm au niveau de la planète. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut de façon très rapide arriver à une réduction à peu près d'un facteur 4. Hein, c'est ce fameux facteur 4 qui a été lancé il y a déjà quelques années. Et ça, il faudrait le faire immédiatement, compte tenu des constantes de temps dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne le bâti, il y a un autre phénomène qui est lié aussi à l'activité anthropique, essentiellement, qui est le phénomène d'îlots de chaleur urbains. Alors, c'est un phénomène secondaire qui est beaucoup plus local, mais qui est beaucoup plus intense. Il y a quelques années, on a travaillé dans un projet européen, notamment, on a essayé de voir un petit peu ce qui se passait en Europe. Là, ce sont des études qui vous font des comparaisons entre des villes européennes, et vous voyez que cet écart de température... Alors, qu'est-ce qu'on mesure, en fait, l'intensité, elle est mesurée entre la température, disons, au centre-ville par rapport à la température à la périphérie, c'est-à-dire souvent sur l'aéroport. Et là, on a, en fin de journée, en été, eh bien, des écarts qui peuvent être supérieurs à 10 degrés dans certains cas. Alors, c'est par exemple... Alors, c'est dû à quoi ? En gros, 50-50, l'activité anthropique, c'est-à-dire le transport, la climatisation, toute l'activité humaine, et le piégeage radiatif par le tissu urbain. C'est à peu près réparti. Et les conséquences, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que là, c'est une étude qui avait été faite sur Athènes. Pour le même bâtiment, eh bien, s'il est en centre-ville ou à la périphérie, en gros, pour le conditionner dans les mêmes conditions, même avec les mêmes valeurs cibles, eh bien, il faut plus que doubler la puissance installée. En général, on utilise des systèmes thermodynamiques, c'est-à-dire que la chaleur qu'on prend à l'intérieur, on la met dehors. Donc on fait qu'aggraver le système. Et d'autre part, les performances des systèmes, hein, en général sur les cycles thermodynamiques, vous savez que le rendement il est proportionnel finalement, enfin inversement proportionnel à l'écart de température entre les sources. Hein, c'est le cycle de Carnot. Et donc là, le rendement des systèmes est réduit du fait de cet écart de température. Donc tout, finalement, va dans le mauvais sens. Et on a des pics de puissance accrus, hein, je vous ai mis ici, de 2 à 4% pour 1 degré, au niveau de la puissance appelée par la ville. Ce qui provoque des problèmes de fourniture énergétique, notamment dans les grandes villes américaines. Hein, on a eu ces phénomènes-là qui sont arrivés malheureusement ces dernières années. Le deuxième élément, c'est la fourniture énergétique. Donc, je vous ai mis ici, moi, ce qui m'intéressait, ce sont les tendances. Donc, les chiffres, bon, ça va jusqu'à 2001, mais la tendance est la même. En gros, sur la planète, augmentation 3% par an. Depuis 25 ans, la demande énergétique par tête sur la planète n'a pas beaucoup évolué. Finalement, on suit, grosso modo, l'augmentation de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces populations, elles augmentent surtout dans des pays dits émergents ou en développement, qui n'ont pas toujours la capacité, finalement, de programme d'investissement lourd dans le domaine de l'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils font ce qu'on a fait nous avant, c'est-à-dire qu'ils tapent dans le tas des énergies fossiles. Voilà. Dont un problème supplémentaire. En Europe, en moyenne, sur ces 40 dernières années, 1,3% par an. Voilà. Alors, la différence essentielle, eh bien, c'est la mise en place en Europe, depuis les années 70, de politiques énergétiques très fortes, liées essentiellement à l'amélioration de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire améliorer, finalement, notre façon de consommer de l'énergie. Et là, c'est ce qu'on appelle les négajoules, hein, c'est la partie verte ici, et vous voyez que ça représente à peu près un tiers, finalement, aujourd'hui. C'est-à-dire que si on n'avait rien fait, eh bien, on serait au sommet de ces courbes, et l'effet, finalement, des politiques énergétiques depuis 30-40 ans, eh bien, c'est cette partie-là, c'est-à-dire qu'on a déjà réduit à peu près de 30% par rapport à une courbe, disons, usual business, hein, qu'on aurait pu imaginer il y a 30 ans. Donc ça veut dire que, dans ce domaine de l'énergie et de l'environnement, les drivers essentiels, finalement, vont être eh bien, les politiques mises en place. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut réellement piloter dans ce domaine. Et dans le secteur du bâtiment, c'est encore plus vrai que dans d'autres domaines, parce qu'on peut améliorer en plus la qualité des bâtiments en améliorant leur performance. Autre enjeu, ben, c'est un défi économique et politique. Là, ce que j'ai pris, c'est l'évolution prévue de la dépendance énergétique européenne. Et donc là, plus la couleur fonce, plus on va vers 2030, hein, qui est l'évolution finale. Alors au total, ce que vous voyez, c'est que, en gros, si on n'agit pas très fortement, on va passer de autour de 45% à plus de 65%, 67% en 2030 de dépendance énergétique. Ça veut dire des problèmes de géopolitique, des problèmes de fourniture énergétique, hein, etc. Et donc, au niveau européen, donc, il y a eu un certain nombre d'actes importants. Il y a un acte notamment qui est important, c'est l'initiative européenne contre le changement climatique de 2008. C'est la fameuse directive 2020 dont vous avez peut-être entendu parler. Hein, c'est-à-dire qu'on a dit que l'objectif au niveau européen, c'est 20% de réduction des gaz à effet de serre entre deux, par rapport à ce qu'on avait précédemment pour 2020. Introduction de 20% d'énergie renouvelable en 2020, 2020 c'est demain matin, hein, dans les palettes énergétiques nationales, et 20% de gains d'efficacité énergétique. Donc à partir de ça, finalement, il y a tout un... Alors les directives, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de débats sur l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, c'est un acte qui est très démocratique, beaucoup plus que certains décrets qui sont pris, puisque pour qu'il y ait une directive, la Commission mandate un groupe d'experts qui travaille, qui élabore un texte. Ce texte, pour qu'il devienne une directive, il faut qu'il soit signé à la fois par le Conseil de l'Europe, qui sont les représentants de l'État, et le Conseil, la présidence de l'Europe, si vous voulez, où siègent tous les chefs d'État ou leurs représentants, et le Conseil de l'Europe, où siègent tous les représentants que vous allez élire dimanche prochain. Et tant qu'il n'y a pas de consensus, eh bien, il n'y a pas de directive. Voilà. Et donc en France, on a un discours un petit peu bizarre là-dessus, mais je peux vous assurer que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, après la directive, elle est déclinée sur des plans nationaux. C'est-à-dire chaque État doit mettre en œuvre dans un contexte qui lui est donné. En France, alors là-bas, c'était 2005. Hein, on devrait passer de 10,3% d'énergie renouvelable à 23% en 2020. Par exemple. Et puis, il y a un certain nombre d'actes après qui sont spécifiques. Et moi, je vais vous parler maintenant de ce qui nous concerne pour le bâtiment. Alors, qu'est-ce que c'est que le secteur du bâtiment en Europe déjà ? C'est 41% de l'énergie finale utilisée. Ça, c'est vrai pratiquement dans tous les pays industrialisés. Aux États-Unis, c'est pareil. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Au Canada, etc. 36% des émissions de CO2 en Europe. En France, je vous montrerai tout à l'heure, on est en dessous. Pour d'autres raisons. Fort potentiel d'économie d'énergie, donc estimé au moment de ce travail-là, 30% pour 2020. Le bâtiment, c'est 9% du PIB européen. C'est 8% des emplois, c'est-à-dire, je crois que c'est au total 11 millions de travailleurs dans le secteur du bâtiment en Europe. C'est plus que l'automobile et l'agroalimentaire réunis, pour donner un ordre de grandeur. Et 2000 milliards de chiffre d'affaires à peu près. Et c'est aussi, ces dernières années, le secteur qui a été le plus actif en termes de lutte contre le changement climatique, avec un certain nombre d'actes, de directives, qui se traduisent après chez nous, alors qu'on a rebadigeonné Grenelle, par exemple. Mais en fait, on n'a fait que mettre en place ce qu'on avait décidé tous ensemble au niveau européen, ou qui définissent après les réglementations dans les différents pays. Alors c'est un domaine où, alors ça c'est une étude qui avait été faite il y a quelques années par des Hollandais, qui essayaient d'évaluer finalement le coût des actions que l'on pourrait mettre en œuvre pour réduire justement les émissions de CO2. Donc par exemple, vous avez la forestation, si vous plantez des arbres, on va réduire le CO2, mais ça demande des investissements. Le secteur du bâtiment, l'amélioration, vous voulez des bâtiments, eh bien, conduit à des réductions d'émissions de CO2 à coût négatif, parce qu'on va améliorer finalement les bâtiments, donc on va leur donner plus de valeur, on va diminuer aussi leur demande énergétique, et donc globalement, sur le cycle de vie du bâtiment, eh bien, on va diminuer son coût. Voilà. Donc ce sont des mesures à coût négatif de réduction de CO2. Et vous voyez qu'il est très, très présent hein, dans ces domaines-là. Alors, en Europe, jusqu'en 2020, c'était la jungle au niveau des réglementations thermiques. C'est-à-dire chacun y allait de son petit règlement. Et vous voyez qu'il y avait une grande disproportion, finalement, de réglementation dans les différents pays européens. Donc, en 2002, on s'est doté de la directive EPBD, qui est Energy Performance of Building Directive, dont l'objectif essentiel, c'était de se mettre d'accord au niveau européen comment évaluer finalement la performance énergétique des bâtiments. C'est-à-dire que tout le monde fasse de la même façon, et puis d'introduire déjà des actions incitatives pour avancer ensemble hein, dans ce domaine-là. Donc le résultat de cette directive, c'est essentiellement une méthodologie commune pour évaluer l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est ce qu'on appelle la notion de consommation globale conventionnelle. Donc on s'est mis d'accord pour évaluer la consommation des bâtiments en kilowattheure par mètre carré d'énergie primaire. C'est-à-dire, quelle que soit l'énergie qui est utilisée, eh bien on va la convertir en énergie primaire. Et la conversion en énergie primaire, par exemple le nucléaire en France, pour l'électricité, pardon, on a un facteur 2,56 qui est un facteur conventionnel, qui est défini par l'État français. Le vrai facteur de conversion qui prendrait en compte le rendement de production, de distribution, et puis après de contrôle du réseau, ça serait autour de 3,3 à peu près. Voilà. Donc, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que ce n'est pas une démarche uniquement scientifique. Hein. Après, les réglementations, ce sont des arbitrages, et chaque pays, finalement, est libre de faire ce qu'il veut un peu. Bien, mais on s'est tous mis d'accord pour le même type d'évaluation. Chaque État membre a dû se munir d'une réglementation du même type. On a mis en place ce qu'on appelle les DPE en France, c'est-à-dire l'étiquetage énergétique des bâtiments. C'est-à-dire que si vous louez ou si vous achetez un appartement aujourd'hui, eh bien, on doit vous fournir cet étiquetage. Voilà. Comme vous l'avez sur les frigos ou sur les téléviseurs. Voilà. Avant, on achetait un bâtiment comme une boîte de tomates, mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Quoi. Voilà. Sur la boîte de tomates, vous avez eau, tomate, sel, etc. Bon, les bâtiments n'avaient rien. Mise en œuvre d'inspections régulières et puis un ajustement des niveaux de performance au niveau du neuf pour les réhabilitations importantes. C'est-à-dire c'est l'introduction, finalement, la première introduction qui a conduit en France à une réglementation en 2007 sur justement la qualification énergétique des stratégies de réhabilitation des bâtiments. Cette directive, elle a été reprise en 2010 et là, on l'a renforcée. Et qu'est-ce qu'on demande en 2010 ? On demande à tous les États de mettre en place un plan pour 2018-2020, enfin 2020 est la cible, de mise en place de bâtiments dont le bilan énergétique est quasi nul. C'est-à-dire qu'à partir de 2020 en Europe, tout bâtiment neuf devrait avoir un bilan énergétique quasi nul. Et puis, un effort sur la réhabilitation. Alors je reviendrai tout à l'heure là-dessus. L'objectif étant de rénover l'ensemble du parc européen d'ici 2050, à peu près. Depuis, une nouvelle directive, je vous explique tout ça très rapidement pour que vous voyez un petit peu comment ça s'organise. Energy Efficiency Directive, récente. Et là, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va réajuster les objectifs de 2020. Voilà. On dit, voilà... il faut absolument que l'on continue à travailler sur l'efficacité énergétique. Sinon, eh bien, on est en train de lâcher la bride et on ne va pas arriver à nos objectifs. On évalue, et ce que je vous montre ici, c'est que qu'est-ce qui reste à gagner, en gros, par rapport à 2020 ? Eh bien, c'est essentiellement, on peut encore améliorer l'efficacité énergétique. Et vous voyez que pour l'ensemble des bâtiments, bah, c'est là où, finalement, on pourrait gagner le plus encore. Alors le dernier texte important de la Commission européenne, là, c'est ce qu'on appelle vers une énergie décarbonée, en fait, horizon 2050. Donc aujourd'hui, on en est là. Donc vous voyez l'évolution, on gagne, mais pas rapidement. Et puis l'objectif final, c'est celui-ci. Voilà. C'est-à-dire que là, on introduit finalement cette notion de facteur 4 dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de réduire d'ici 2050, en gros, la demande énergétique au niveau européen d'un facteur 4 par rapport à 90. Alors le problème, est-ce qu'on peut y arriver ? Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail, dans le quart d'heure qui me reste, de façon à vous expliquer ce qu'on met derrière tout ça, quoi, finalement. Alors notamment les NZEB, là, donc... c'est la définition que je vous disais tout à l'heure. L'idée, ce n'est pas d'avoir des bâtiments qui soient autonomes en énergie ou à énergie zéro, ça ne veut rien dire. Ce sont des bâtiments, finalement, dont on va limiter la demande énergétique autant que faire se peut. Il faut que ça reste économiquement viable. Et qui vont, soit directement sur le bâtiment ou autour du bâtiment, compenser, en gros, par des apports d'énergie renouvelable, l'énergie qu'ils consomment par ailleurs. Voilà. C'est ça l'objectif des NZEB. Alors cette ambition, elle est partagée. Vous voyez que tous les pays européens se sont mis au travail pour arriver à ça. Donc voilà le plan en ce qui concerne la France. Donc en gros, très récemment, hein, on a divisé par 3 à peu près les objectifs, là, déjà en France. Hein. Donc c'est la fameuse RT 2012 dont vous avez peut-être entendu parler, là. C'est la réglementation thermique 2012, hein, qui demande à ce que globalement, en moyenne en France, les bâtiments construits aujourd'hui, eh bien, limitent leur demande énergétique alors pour les 5 usages conventionnels que sont le chauffage, la ventilation, production d'eau chaude sanitaire, les auxiliaires et l'éclairage, à 50 kWh par mètre carré par an. La réglementation précédente, RT 2005, en moyenne, on était à 150. Donc là, on a fait un pas énorme. Et l'objectif 2020, ben, c'est d'arriver nearly zero. Okay. Alors ça, c'est partagé au niveau européen, pas seulement. Les Américains ont aussi une stratégie du même type. Bon, j'ai pas mis les Anglais. Les Anglais sont sur un autre objectif, eux, qui est le zéro carbone. Mais bon, ça revient un peu au même. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les implications ? Alors, CNZ, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un bâtiment sobre qui va privilégier l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, ça veut dire qu'on va essayer d'améliorer la conception et puis de mettre en avant, si vous voulez, de développer l'intégration de systèmes d'énergie renouvelable qui pourront compenser la dépense énergétique. Alors, pardon, je suis allé un peu vite. Ah, où est-ce qu'elles sont les flèches là-dessus ? Ah, il fonctionne. Je voulais revenir en arrière, mais j'arrive pas. Ah oui, là, quelque part. Ah. Ah oui, bah voilà, parce que je suis allé un peu vite là. Bon. Voilà. Donc première chose, c'est le contrôle des consommations. Donc c'est un petit peu ce que je vous montrais. Hein. On part de très loin. On a encore des épaves à régler. La moyenne du parc, ben on est à peu près là. Hein. Ça, c'était 2005. Ça, c'est 2012. Ça, c'est 2020. C'est-à-dire que la consommation, finalement, elle ne va pas beaucoup baisser par rapport à 2012. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de produire en plus. Voilà. Le problème, c'est que là-dedans, on n'a pas intégré la consommation des autres équipements qui souvent utilisent de l'énergie noble, de l'électricité, et dont la consommation ne fait qu'augmenter. Voilà. Donc, quand on veut concevoir ces bâtiments, on doit aussi maîtriser ces consommations-là. Alors voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Vous voyez que, en fonction, si on optimise réellement les consommations, on peut aussi les réduire de façon importante. Alors, deuxième volet, c'est exploiter finalement les énergies renouvelables. Très bien. Il y a un certain nombre de challenges et de verrous quand même à l'utilisation de ces énergies renouvelables, notamment en milieu urbain. C'est l'accessibilité finalement à ces énergies qui est un problème réel en milieu urbain. C'est le problème de réduction des coûts, l'intégration architecturale, le stockage. C'est un problème sur lequel on travaille depuis des années mais qui n'est toujours pas résolu. Un stockage d'électricité aujourd'hui, on ne sait pas faire. Il faut bien dire ce qui est. Système de contrôle, dimensionnement des systèmes, garantie de production et puis connexion au réseau. Vous voyez que tout ça, derrière, ça demande des développements technologiques importants. C'est-à-dire, on peut décréter finalement quelque chose. Après, la mise en œuvre demandera des avancées importantes. Donc l'idée, c'est celle-là. C'est-à-dire de réduire les consommations et puis de promouvoir finalement le développement des énergies renouvelables. Donc ça, on peut définir différents niveaux d'intensité aussi. C'est ce qui commence à être fait en France avec des labels qui sont en train de se mettre en place. Les labels BEPOS, bâtiment énergie positive notamment. Le deuxième élément, c'est que on va pas faire ça simplement pour l'installation du bâtiment. Ce qu'il faut regarder finalement, c'est globalement, et je crois qu'il y a une conférence de mon collègue Rousseau là, cet après-midi qui va vous parler de ça, c'est réellement regarder l'ensemble finalement du cycle de vie du bâtiment, depuis sa conception, sa construction, son usage et puis sa fin de vie, qui peut être une réhabilitation importante ou une déconstruction. Ne pas négliger non plus ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie grise. Alors l'énergie grise, c'est toute l'énergie qui a été nécessaire finalement à la construction de ce bâtiment. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui est embedded, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qui est contenu, hein, bien dans les matériaux, dans les transports, dans la mise en œuvre de ces matériaux. Alors jusqu'à présent, on ne s'en préoccupait pas, parce que quand vous regardez par rapport à ce qu'on faisait il y a 25 ans, bon, il n'y a pas photo. Si vous regardez par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut être comparable. Donc ça veut dire que dans l'évaluation finalement de CNZ, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on intègre également ces aspects-là. Et puis, Patrice interviendra tout à l'heure là-dessus, ça doit être aussi, on ne doit pas faire de concessions, si vous voulez, pour des préoccupations énergétiques à la santé ou au confort des occupants. Et donc ces bâtiments, ils doivent être aussi sains, sûrs et confortables et facilitant des comportements éco-responsables. Donc on va parler de confort global, on va parler de qualité de l'air, mais tout à l'heure, Patrice le fera en détail, et puis de santé, sécurité, hein, des occupants. Donc des problèmes de qualité de l'air, de qualité de l'eau, de sécurité électrique, électromagnétique, etc. Et puis faciliter les comportements éco-responsables. Ce qu'on demande aujourd'hui, par exemple, dans les labels qui sont mis en place, compte tenu de l'évolution réglementaire, c'est justement qu'il y ait une sensibilisation des occupants, finalement, à ce qu'est leur bâtiment, comment il fonctionne, etc. C'est important que les gens s'approprient, finalement, cet outil. Et puis, c'est rare qu'on fasse des bâtiments sur les aéroports. Malheureusement, aujourd'hui, tous les bâtiments de France et de Navarre, et pas seulement dans le monde entier, ils sont conçus comme s'ils étaient construits sur un aéroport. C'est-à-dire que, je vous ai parlé tout à l'heure d'îlots de chaleur urbains, si on veut optimiser des bâtiments, eh bien, il faut absolument prendre en compte les conditions, aux limites, réelles de ces bâtiments-là. Que ce soit d'un point de vue énergétique, que ce soit au niveau des transferts de polluants, hein, ou d'éléments. Et aujourd'hui, il y a un grand problème là-dessus. Hein. Ça veut dire qu'il faut développer des modèles là, comme celui que je vais vous présenter, qui sont capables finalement de changement d'échelle, depuis des échelles climatiques, météo, jusqu'à des échelles locales. Alors ça, c'est des travaux qu'on avait fait il y a quelques années. Là, c'est d'arriver à prédire, par exemple, ça paraît peut-être anecdotique, mais les températures et les vitesses d'air dans des rues. Voilà. À partir de données météo. Donc ça demande des changements d'échelle, hein, en partant de macro-modèles jusqu'à des modèles très très détaillés, hein, qui vont nous permettre de faire ça. Mais ce sont les données dont on a besoin si on veut optimiser vraiment des bâtiments urbains. Le dernier élément aussi, dans cette approche globale finalement, d'efficacité, c'est introduire la mobilité. Faire un bâtiment zéro énergie à 50 km Poitiers, dont les quatre occupants, parce qu'ils sont étudiants, lycéens, et puis ils travaillent dans des entreprises à Poitiers, quand on fait le bilan global sur le cycle de vie du bâtiment, on s'aperçoit que ce n'est pas la panacée du tout. Donc, l'idée aujourd'hui qui fait son chemin au niveau européen, c'est de dire, si on veut réellement avancer, eh bien, il faut avancer vers cette approche globale de l'impact environnemental et énergétique des bâtiments. Et intégrer dans les futures réglementations, eh bien, des éléments qui permettent d'apprécier l'ensemble de ces postes. Et c'est qu'à ce moment-là, finalement, qu'on pourra dire qu'effectivement, on a des bâtiments Near Zero Energy Building, c'est-à-dire que leur production est capable de compenser les dépenses énergétiques qui sont liées à l'usage de ces bâtiments, à leur construction, et puis à la mobilité de leurs occupants. Donc cette approche globale, elle est absolument nécessaire. Le problème, c'est que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'il faut définir de nouvelles métriques, c'est-à-dire qu'il faut définir de nouveaux indicateurs de façon à mesurer l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir finalement optimiser in fine sur l'ensemble des critères. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, hein, dans un certain nombre de groupes qui travaillent au niveau international. C'est-à-dire qu'on essaie d'avancer justement de façon consensuelle sur la définition de critères et d'indicateurs qui vont permettre justement d'optimiser l'ensemble de ces paramètres dans une approche globale. Bien sûr, il faut que le coût d'investissement soit maîtrisé. Sinon, on peut faire ce qu'on veut, mais les gens ne le feront jamais. Et là, ce qui est assez rassurant, ça, c'est une étude qui avait été faite par des gens de ICAD. Donc ICAD, c'est un grand, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est un gros promoteur français, hein, qui fait des investissements importants. Et ils avaient fait une évaluation justement des coûts liés à l'évolution réglementaire entre différents niveaux de réglementation. Donc entre la réglementation 2005 et le BBC basse consommation, c'est en fait la réglementation aujourd'hui. Et ce qu'on s'aperçoit, et les gens ne sont pas des philanthropes, ce sont des financiers, et on s'aperçoit qu'en fait, la dispersion à un même niveau de performance est supérieure à l'écart, finalement, à l'échelon, si vous voulez, nécessaire pour améliorer l'efficacité. C'est-à-dire que le coût, qui est souvent annoncé comme une barrière essentielle, ce n'est pas forcément déterminant. Ce qu'il faut surtout, c'est que les gens apprennent à travailler autrement, c'est-à-dire qu'on fasse non pas de la conception séquentielle, c'est-à-dire qu'il y a un maître d'ouvrage qui donne un ordre à une maîtrise d'œuvre, un architecte qui fait un beau plan et puis qui va chercher un bureau structure et puis après qui va chercher un bureau au fluide, etc. Ce qu'il faut, c'est que dès le début, on réunisse l'ensemble des acteurs parce qu'il faut optimiser finalement l'ensemble de la conception. Alors les NZEB, il y en a partout en Europe, en France, dans tous les pays. On a construit récemment des bâtiments qui respectent finalement ces engagements-là. Donc aujourd'hui, ça veut dire que c'est possible. Techniquement, on peut le faire. Le problème essentiel, c'est la massification. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait ça maintenant pour monsieur tout le monde ? Voilà. Et là, on a besoin d'avancées technologiques, on a besoin de recherche des matériaux, on a besoin sur des technos, sur des systèmes, pour y arriver. Deuxième point essentiel, je vais rapidement terminer, c'est les enjeux de la réhabilitation. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de construction neuve en Europe, aujourd'hui, il est inférieur à 1%. Donc on peut bien faire tout ce qu'on veut sur les bâtiments neufs, mais ce n'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Et ça, on s'en est rendu compte assez tard en Europe. Je vous ai parlé de la directive de 2010 qui mettait l'accent là-dessus. En France, la première réglementation sur la réhabilitation thermique, elle date de 2007, alors que les réglementations thermiques, il y en a depuis 1974. Donc l'objectif, c'est de dire, bon, si on veut réhabiliter le parc aujourd'hui, il faudrait arriver à peu près à un taux de réhabilitation de 3% par an. Voilà. Aujourd'hui, en moyenne en Europe, on est autour de 1,2%. Voilà. Donc il y a un effort essentiel à faire. On estime, alors l'effort nécessaire pour faire ça, c'est à peu près 1 million de personnes supplémentaires par an d'ici 2020 travaillant dans ce domaine-là en Europe. Alors l'intérêt économique, c'est d'abord, il est à la fois pour les États et pour les personnes, parce que les États diminuent leurs factures énergétiques, améliorent les conditions de vie de leurs citoyens, et puis le citoyen lui-même, il a une facture allégée, et puis il améliore aussi finalement ses conditions de vie. Alors il y a une étude qui a été faite par des économistes de Copenhague récente, qui est de l'an dernier, et qui ont évalué pour l'ensemble des pays européens les gains finalement de production, au niveau du PIB, qui peuvent être attendus. Et ils sont énormes. Alors ce qui m'a surpris, alors c'est pour ça que j'en parle rapidement, parce que je ne vais pas vous décrire leur étude en détail, c'est ça. Donc ça, c'est faible efficacité, haute efficacité, voilà, en fonction des positions des différents États, globalement pour l'Europe. Ce que l'on voit, c'est que le gain essentiel de la réhabilitation, effectivement, alors c'est sûr, l'énergie, etc., on va gagner beaucoup, mais où on gagne le plus, d'un point de vue strictement économique, c'est sur l'amélioration des conditions de vie des gens. Et c'est les effets secondaires sur la santé notamment. Voilà. Donc ça, c'est un élément aussi qu'il faut garder en tête. Alors en France, la situation, on a une grande diversité d'architecture, c'est un grand bonheur d'avoir ça. Au niveau des consommations, on est dans la moyenne européenne, un petit peu au-dessus. On est autour de 43% en France à peu près pour le bâtiment. Donc c'est toujours le premier secteur, consommateur d'énergie. Ce qui change par rapport aux autres, c'est en ce qui concerne l'émission de gaz à effet de serre, parce qu'en total, on est à 25%. C'est-à-dire qu'on a 19% en direct, plus la partie qui correspond à la production d'énergie, dont une part doit être affectée au bâtiment. Donc ça fait à peu près 25% des émissions d'effet de serre. Tout simplement, c'est la politique nucléaire de la France depuis les années 60. Voilà. C'est uniquement ce qui nous distingue des autres pays. La feuille de route nationale, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous sommes là. L'objectif Alors c'est 2020. Oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour les bâtiments publics, ce n'est pas 2020, les NZEB, c'est 2018. Sachant que l'État doit être exemplaire et les collectivités aussi. Voilà. Après, voilà, il faut. Mais on peut trouver des solutions. La structure du parc français, en gros, hein, vous avez 32-33 millions de résidences à peu près, et puis 1000 millions de mètres carrés de tertiaire. Voilà. À peu près, cette partie du tertiaire peut être associée, vous voyez que c'est les deux tiers à peu près, ça peut être associé finalement d'un point de vue techno à l'habitat. Hein, c'est tout ce qui est bureau, école, commerce. Ce sont des structures, ce n'est pas un hôpital, quoi. C'est quelque chose qui peut être traité de la même façon. Et la structure du parc, c'est ça. Donc vous avez 20% des bâtiments construits avant 1915, etc. Ça, c'est la première réglementation thermique en France qui était la conséquence du choc pétrolier. Hein. C'est là où on s'est dit, aïe, 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 il faut qu'on fasse quelque chose. L'énergie, finalement, on a des ressources limitées. Donc vous voyez qu'on a une distribution quand même de ce parc avec beaucoup de bâtiments anciens. Voilà. Donc ça veut dire un effort important, hein, surtout sur la réhabilitation. Donc 65% du stock était construit avant 75, 31% avant 49, 34, etc. 55% des maisons individuelles n'ont pas été réhabilitées durant les 20 dernières années. Voilà, c'est le constat que l'on peut faire. La demande moyenne en énergie primaire est d'environ 250 à 260 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Le taux de construction neuve, 1%. En suivant la tendance actuelle, on attendrait en moyenne 160 à 180 en 2050. C'est-à-dire si on ne fait rien, si on fait du business as usual, comme disent les Américains, eh bien voilà l'objectif que l'on aurait. La cible, c'est toujours 50. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut des mesures drastiques, si vous voulez, que l'on mette en place là-dessus. Et ça s'explique aussi par l'évolution des performances. Hein. Ça, c'est un peu l'évolution des performances d'un point de vue du chauffage des bâtiments uniquement. Hein. Et on s'aperçoit qu'on était assez vertueux jusqu'à la période de reconstruction après la guerre. Et là, franchement, pendant les 30 glorieuses, ça n'a pas été très glorieux. Voilà. On a fait absolument n'importe quoi. Et maintenant, vous voyez qu'on a mis longtemps à récupérer finalement les erreurs que l'on avait faites. Et puis maintenant, on va essayer d'aller plus loin. Alors, j'ai essayé d'être rapide, vous brosser un grand tableau, après on discutera très volontiers. Les problématiques scientifiques qui sont liées à ce domaine-là. D'abord, il y a toute une recherche méthodologique qui est nécessaire. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure d'optimisation, d'analyse multicritère. Voilà. Donc, on a besoin de méthodologie, de développer des méthodes pour appréhender correctement ces problèmes-là. Donc on doit optimiser des stratégies de construction, de réhabilitation, des réseaux énergétiques. Hein, vous avez tous entendu parler des smart grids. Alors, smart grids, c'est pour l'électricité. Actuellement, on essaie de faire la même chose pour tous les réseaux énergétiques. C'est ce qu'on appelle les smart networks. C'est-à-dire essayer finalement de faire en sorte que des bâtiments échangent de l'énergie. Si vous avez un bâtiment de bureau et des habitations, quand les gens sont au bureau, ils ne sont pas chez eux. Donc peut-être qu'il y a des moyens de gérer ça. Et si vous avez en plus dans les bureaux beaucoup d'informatique ou un centre de calcul, c'est-à-dire qu'on va produire beaucoup d'énergie, hein, souvent ce bâtiment-là, il va être excédentaire. Donc on peut peut-être en profiter pour faire autre chose. Des recherches sur les garanties de performance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aujourd'hui garantir la performance d'un bâtiment que l'on va construire ou rénover. C'est pas simple. Là-dedans, il y a beaucoup de phénomènes aléatoires. Il y a les aléas liés à la mise en œuvre, il y a les aléas liés au comportement des gens, etc. Donc on a plein de domaines aujourd'hui où on a des zones d'ombre, où il est nécessaire d'investir. Sur le jeu d'acteurs, c'est-à-dire comment, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment mettre autour de la table les gens pour optimiser finalement l'acte de construire et qu'il soit partagé aussi par les occupants. De la recherche technologique, alors ça va depuis des outils, développement d'outils techno, de données. Aujourd'hui en France, on n'a pas de connaissances statistiques, si vous voulez, complètes sur le parc des bâtiments. Alors, certains pays l'ont mis en place depuis longtemps. Par exemple, au Danemark, on a une espèce de catastre des constructions qui fait qu'à chaque fois qu'un bâtiment est rénové, etc., hop, on upgrade ses performances. Bon, en France, ça n'existe pas. Donc, il y a vraiment un problème de big data, là. Hein, comment gérer toutes ces données, comment les organiser pour qu'elles soient utiles. Beaucoup de travaux sur les enveloppes. Alors, on est passé d'enveloppes passives, actives. Maintenant, on parle d'enveloppes intelligentes, hein, qui soient capables de réagir. Donc là, il y a beaucoup de développement. Alors, ça va depuis des matériaux, à usage spécifique. Donc, je ne sais pas si Patrice parlera tout à l'heure de la dépollution, par exemple. Hein. Il y en a des matériaux aujourd'hui qui sont capables de faire ça. Ou d'améliorer le stockage de l'énergie, des matériaux à changement de phase qu'on peut introduire dans les bâtiments, etc. Donc, il y a plein ou des matériaux à propriété radiative sélective, hein, qui vont limiter les émissions de grande longueur d'onde, par exemple, etc. Les systèmes constructifs, les stratégies de conditionnement, donc ça, c'est toutes les stratégies pour améliorer la qualité des environnements intérieurs, l'épuration d'air, etc. Des recherches phénoménologiques, on ne sait toujours pas tout sur les transferts couplés de chaleur et de masse, hein, dans certains matériaux, par exemple. La modélisation, on a vraiment besoin d'avancer, hein, dans tout ce qui est modélisation et simulation du comportement, multi-usage maintenant des bâtiments, pas uniquement énergétique. Et là-dedans, il y a des modèles déterministes, c'est tous les phénomènes physiques qu'on est capable de modéliser simplement. Et puis, il y a tout un tas de phénomènes qui sont aléatoires ou stochastiques qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien prendre en charge, pas très bien modéliser. Et puis, il y a un gros domaine aussi qui est souvent sous-estimé, mais qui est absolument nécessaire, c'est que si on fait des bâtiments, ce n'est pas pour économiser de l'énergie, c'est pour que des gens vivent dedans. Et donc, on a besoin de recherches aussi sur, dans le domaine des SHS, hein, sur le comportement des usagers, l'acceptabilité des solutions technologiques. Alors, je sais que les gens des SHS, ils n'aiment pas ce terme, mais bon, c'est un terme un peu techno, là, l'acceptabilité. Et puis, des études économiques, hein, et pour donner un peu de perspective. Voilà, en conclusion, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que ces phénomènes, ces enjeux environnementaux et énergétiques, ils vont nécessairement conduire à des évolutions fortes des politiques. Donc en France, vous savez qu'on travaille sur une loi que nous présentera notre ancienne présidente de région bientôt, hein, sur la transition énergétique. Mais c'est pas anecdotique. C'est absolument nécessaire de se mettre en perspective. Et aujourd'hui, les politiques ont beaucoup de mal à faire ça. Parce que les échéances des politiques, c'est plutôt les échéances électorales. Alors que là, vous avez compris que la constante de temps, ce n'est pas du tout la même. Donc le secteur du bâtiment, qui est souvent considéré comme... Il y avait un commissaire européen qui disait il y a high technology, low technology and construction technology. Voilà, hein, on est un peu les plombiers du secteur. Bon, je crois que cette image-là, elle a vécu aujourd'hui. Et par exemple, si vous regardez les innovations développées dans le secteur du bâtiment ces dernières années, c'est assez fantastique. Le problème que l'on a, c'est comment transférer ces innovations dans les bonnes pratiques. Et là, il y a un problème délicat de formation, etc., à mettre en œuvre. Donc en quelques années, ce que je vous disais, l'Europe a vraiment affiché un leadership là, dans ce domaine-là. Au niveau international, hein, on se balade, on va au Japon, aux États-Unis. Les collègues, ils nous demandent qu'est-ce qui se passe en Europe, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on a cette image-là, qui est entretenu par ce qui se passe aussi dans les États. Et on ne s'en sortira pas, hein, sans cela. C'est-à-dire qu'il y a un effort de recherche important, hein, dans ce domaine, que ce soit sur les aspects méthodologiques, techno, pour atteindre ces objectifs annoncés. Voilà. Je vous remercie.
Alors, je ne sais pas si on enchaîne directement. On a quelques temps pour des questions. Oui.
Bonjour et merci pour votre présentation. Tout à l'heure, vous aviez parlé des îlots de chaleur. Et c'est vrai que si on pouvait combattre cet effet, ça serait pas mal. Une des solutions, c'est d'installer des toitures végétalisées. Mais dans les constructions qui sont déjà faites, c'est toujours pas évident. C'est pas encore évident de rénover.
Oui, alors il y a une activité au laboratoire chez nous là qui est dédiée à ça, hein, qui est sur ce qu'on appelle les solutions de remédiation. En fait, nous on travaille sur deux domaines, depuis quelques années maintenant, hein. Comme je vous ai dit, hein, sur l'îlot de chaleur urbain, en gros, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il y a l'activité anthropique, hein, c'est-à-dire l'activité de l'homme, hein, c'est-à-dire le chauffage, la climatisation, les transports, tout ce que vous pouvez imaginer. Et à peu près la moitié de l'îlot de chaleur qui est due au piégeage radiatif des tissus urbains. Donc nous, on travaille plutôt sur le deuxième aspect. Alors sur le deuxième aspect, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a déjà la conception même de ce tissu urbain. Et il y a quelques années, on avait travaillé dans un projet européen qui s'appelait Green Code. On avait travaillé sur un grand quartier de Madrid là, qui était en rénovation, 70 hectares. Justement, on essayait de définir finalement des topologies, si vous voulez, urbaines, qui limitent justement ces phénomènes de piégeage. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est le traitement des surfaces. Traitement des surfaces, nous, on a eu toute une activité sur ce qu'on appelle les cool roofs ou cool paints. En fait, ce sont des matériaux, si vous voulez, dans le spectre solaire, en gros, si vous regardez la distribution de l'énergie dans le spectre solaire, il y en a la moitié qui est à peu près dans... Alors, pour simplifier, je vais dire le visible, enfin ultraviolet et visible, et puis la moitié qui est dans le proche infrarouge. Voilà. Alors, l'idée de ces matériaux-là, ce sont des peintures, des revêtements, hein, c'est qu'ils vont avoir les mêmes propriétés dans le domaine visible, c'est-à-dire qu'on va garder la palette de couleurs qu'on aime bien dans les villes, c'est-à-dire qu'on ne va pas peindre toutes les villes en blanc. Hein. Mais, par contre, ils vont avoir des coefficients, des réflectivités, des coefficients de réflexion, si vous voulez, très importants dans le proche infrarouge. Et donc, ça veut dire qu'ils vont beaucoup moins s'échauffer quand ils vont être exposés au soleil. Et cette façon-là, on peut réduire de façon importante. Alors, la végétation fait la même chose. Pourquoi ? Parce qu'une plante qui fonctionne bien, alors on travaille aussi hein, sur ces aspects de végétalisation. Une plante qui fonctionne bien, en gros, la température de surface de ses feuilles, c'est à peu près la température d'air. Parce que la chaleur qu'elle absorbe au soleil est réduite par l'évaporation d'eau au niveau justement de cette feuille. Et donc, une plante qui fonctionne bien, sa température de surface, c'est à peu près la température de l'air. Donc si on recouvrait toutes les surfaces urbaines de végétation, eh bien, effectivement, on n'aurait pas ce problème d'élévation de température. Puisque l'échange convectif se ferait avec une surface dont la température est la même. Voilà. Alors, là-dessus, la végétalisation, ça ne veut pas dire uniquement d'ailleurs les surfaces. Il y a tout ce qui est la topologie urbaine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va gérer la végétation dans la ville, comment est-ce qu'on va gérer l'eau dans la ville aussi. Hein. Ça, ce sont des domaines importants. Alors, si ça vous intéresse, nous, on a des collègues qui travaillent de façon spécifique là-dessus. Et on participe, on a monté au niveau européen ce qui s'appelle Cool Roof Council, qui essaie de rassembler des chercheurs et des industriels qui développent justement ces stratégies-là.
D'accord, merci.
Moi, je pensais à la difficulté des coûts des constructions qui sont anciennes. Parce que je me pose la question de savoir comment, d'un point de vue pratique, si on veut arriver à une réduction, bien sûr, du gâchis d'énergie qui est évident des bâtiments anciens, les propriétaires peuvent, d'un point de vue pratique, résoudre ces problèmes, étant donné qu'on fait appel, bien entendu, à la rénovation, mais... On sait très bien qu'une grande partie des rénovations seront à la charge des gens. Donc on oui. place l'individu au centre, comme vous l'avez montré, mais c'est pas évident.
Ah, oui, alors c'est pas simple. Et finalement, l'analyse n'est pas simple non plus. Parce que à une autre occasion, je vous détaillerai l'étude qui a été faite là, par les économistes de Copenhague. C'est un groupe, hein, c'est un cercle d'économistes, qui travaille beaucoup là-dessus. Et ce qu'ils montrent, en fait, c'est que le bénéfice, il est partagé. C'est-à-dire que si on améliore l'ensemble du parc, eh bien ça veut dire que, vous avez compris, le bâtiment, c'est plus de 40% de la demande énergétique. Si on divise par 4 la demande énergétique des bâtiments, et franchement, sur une réhabilitation, ce n'est pas très compliqué à faire. Bon. Eh bien vous voyez tout de suite que la facture énergétique globale, elle va quand même s'en ressentir. Donc ça veut dire que tout le monde est gagnant. Voilà. L'État, au niveau de politique, au niveau d'indépendance énergétique, les gestionnaires de parcs, et puis finalement, in fine, l'occupant, parce qu'il aura beaucoup moins de charges à payer. Bien. Le problème, c'est que souvent, ça va retomber l'investissement, il va retomber sur le propriétaire de parc ou sur le propriétaire individuel. Et donc, là, il faut des mesures de solidarité. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'ensemble des bénéficiaires puissent participer finalement à l'investissement qui va être amorti, mais c'est sur des durées de 10, 15 ans. Aujourd'hui, on est un petit peu là-dessus. Hein, sur une réhabilitation maison individuelle, c'est entre 20 et 30 000 euros. Si vous regardez sur la maison, oui, mais vous améliorez aussi la valeur de votre patrimoine. Oui, et ça, souvent, les gens ne le prennent pas en compte.
Non, mais là, les gens ne le prennent pas en compte. Mais si vous voulez, un propriétaire qui ne peut pas... Il y a plein de gens propriétaires de maisons anciennes, etc. Il y a un problème pratique. Il y a encore ce problème de précarité, la précarité énergétique. Alors, on sait aussi qu'elle existe.
Alors, la précarité énergétique, aujourd'hui, il y a des lois qui ont été votées récemment. Et il y a une loi du FLO qui, justement, prend en charge, c'est-à-dire la collectivité, à travers l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, prend en charge des réhabilitations importantes pour des gens, justement, qui sont en situation de précarité énergétique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la précarité énergétique, c'est pas uniquement les jeunes dans les banlieues. C'est beaucoup, beaucoup de gens en milieu rural, des personnes âgées. Voilà. Donc là, il y a des mesures qui ont été prises. Il y a une initiative régionale qui me paraît très intéressante aujourd'hui, qui est d'essayer de trouver finalement, de mettre en place un système de tiers payeur, si vous voulez, de système de relais. Voilà. Donc ça a un petit peu de mal à aboutir là, ces derniers jours, mais il y a un vrai projet pilote dans notre région qui s'appelle Arte, qui serait de mettre en place justement un système, si vous voulez, de relais pour les investissements de réhabilitation à destination des propriétaires individuels. Voilà. Donc voilà, il faut faire aussi, alors je l'ai oublié là dans la recherche, enfin si j'en ai parlé un petit peu, il y a aussi beaucoup de travaux à faire sur les problèmes d'ingénierie financière et économique dans ce domaine-là. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un petit peu en dehors de notre spectre habituel, mais ce sont des choses qui sont importantes aussi.
Une dernière
question. Puis ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu aussi beaucoup de politiques complètement contre-productives. C'est-à-dire qu'on donnait des subventions aux gens qui changeaient leurs fenêtres. C'est idiot. Parce que les gens, ils vont mettre 5 000 euros, 10 000 euros dans leurs fenêtres. Mais ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent ou 15 ans qui viennent, ils ne vont pas refaire l'isolation. Ils ne vont pas avoir un vrai projet de réhabilitation. Voilà. Et donc, maintenant, alors aujourd'hui, vous savez que vous avez droit à des réductions d'impôts. Alors, vous me direz, c'est pour ceux qui payent des impôts. Mais voilà. Si vous réhabilitez votre bâtiment. Mais pas sur une seule cible. Ça doit être un bouquet de solutions. Donc là, on a progressé. Hein. Parce que sinon, on a eu des mesures incitatives, genre pendant un moment pour les chauffe-eau solaires, par exemple, la région a fait la promotion un petit peu des chauffe-eau solaires. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu le prix d'installation des chauffe-eau solaires qui a augmenté tout simplement de la part qui était allouée par la région, quoi. Donc il faut se méfier aussi dans les politiques publiques d'effets contre-productifs de ce type-là. Mais je pense que maintenant, ça devrait aller mieux, quoi. Hein, on s'est un petit peu brûlé les doigts, donc ça devrait aller mieux.
Je me posais une question par rapport aux matériaux utilisés, ces matériaux durables, et est-ce qu'il y a l'introduction de nanomatériaux dans ce qui est prévu, sachant qu'on ne sait pas, en fait, qu'on en parle maintenant. On a organisé des journées d'études sur les nanotechnologies, oui. Et on parle maintenant des dangers des nanos. C'est aussi
tout ça, c'est très complexe, d'accord ? C'est très complexe parce que les nanoparticules qui pourraient être relarguées par des matériaux, ce qu'il faut voir aussi, c'est où est-ce qu'on risque de les rencontrer. Parce que les nanoparticules dans l'air ambiant, elles ne restent pas très longtemps, parce que leur vitesse de dépôt est très rapide. C'est-à-dire qu'elles vont s'agréger sur des grosses particules et tomber. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont un peu comme les molécules de gaz, elles sont agitées de mouvements browniens. Et donc, comme elles bougent beaucoup, elles se tapent beaucoup et elles se déposent plus rapidement. Hein. Donc, bon, c'est pas aussi simple que ça. Mais bon, il y a un vrai problème sur les nanomatériaux. Mais les nanomatériaux, oui, bien sûr, ils sont utilisés dans le domaine de la construction.
Oui, mais est-ce qu'il y a des
revêtements
qui sont faites sur justement les problèmes liés à la santé ?
Alors,
si vous parlez.
Ce qu'il faudrait faire, mais c'est en train de se faire en Europe avec la directive REACH, par exemple, sur les produits chimiques, c'est-à-dire que l'évaluation sanitaire, elle soit préalable à la mise en place, à la mise en œuvre des matériaux. Voilà. Hein, qu'on ne recommence pas des choses qu'on a connues par le passé. Bon, je pense qu'on avance dans ce sens-là, hein, au niveau réglementaire. Bon, Patrice, je pense que tu parleras un petit peu tout à l'heure de ces problèmes-là, de réglementation, d'émissions, etc., des matériaux. Donc, ça avance. Ça avance pas forcément aussi vite qu'on le souhaiterait, mais ça avance.
Donc, en fait, il vaut mieux avoir une maison en bois, tranquille.
Pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de bois qui ont des émissions de produits nocifs. Hein.
Oui, c'est voilà. C'est pas parce que c'est naturel.
La ciguë, c'est complètement naturel. Hein. Et pourtant, il y a des hommes célèbres qui sont morts de la ciguë. Voilà. Donc, faisons attention à ça aussi.
Oui, voilà. Je sais, je comprends.
Hein, il faut être très prudent. C'est-à-dire qu'il faut passer au crible des mêmes critères l'ensemble des matériaux. Il n'y a pas de chapelle dans cette histoire-là. Hein. Et quand on veut qualifier un matériau, ça ne se fait pas uniquement sur ses propriétés mécaniques, etc. C'est l'ensemble de ses propriétés qui doit être regardé, notamment les émissions de polluants, par exemple. Et là, il y a certains bois qui sont... vous savez, le cancer des menuisiers, malheureusement, pour regarder les populations de menuisiers, il y en a beaucoup qui meurent d'un cancer des poumons. Voilà. Voilà.
Merci, monsieur Allard. Merci.
Je vous en prie.
Donc maintenant, nous allons vous projeter un film. Un petit film de 8 minutes, n'est-ce pas, puisqu'on parlait de la ville. On est toujours dans la ville, puisqu'on est sur un exemple de prototype de ville durable à Malmö, en Suède. Donc, c'est Patrick Matagne qui fera son intervention ensuite. Donc, Patrick, tu es maître de conférence à l'Université de Poitiers, l'École supérieure de professorat de l'éducation SP et chercheur au laboratoire ruralité. Donc, je voulais remercier Patrick d'avoir organisé la journée avec nous, comme on l'a fait déjà l'année dernière. Nous nous connaissons depuis longtemps. Patrick intervient souvent à l'espace Mendès France. Il est historien des sciences. Il a écrit des ouvrages sur l'histoire de l'écologie. Il a travaillé aussi sur des sociétés savantes. Et maintenant, quand on a organisé ensemble des journées d'études sur le développement durable, on nous en a parlé hier. Donc je te remercie, Patrick, d'avoir accepté d'intervenir dans ce cadre. Et puis nous allons regarder ce film. Et je souhaite qu'il y ait, bien sûr, des réactions de votre part. Il est un peu... il date de... De quand ce film 2003 ou 2004. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent vous paraître un peu obsolètes. Donc réagissez justement par rapport à tout ce que vous avez déjà engrangé depuis hier. Donc à tout à l'heure. Vas-y Patrick, le micro. Le micro.
Oui, donc bonjour à nouveau. Oui, juste une petite introduction par rapport à ce que vient de dire Anne et puis l'entrée qui va être la mienne pour cette intervention. Effectivement, tu as fait allusion au fait que bon, j'ai une casquette d'historien des sciences, histoire de l'écologie, etc. Et donc je suis actuellement à l'ESP. Alors l'ESP, c'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Ce sont des écoles donc, qui ont remplacé les IUFM, Instituts universitaires de formation des maîtres. Donc, c'est une des composantes des universités. Donc, il y a un site de cette école supérieure du professorat de l'éducation à Poitiers. Il y en a un à Angoulême, il y en a un à Niort, sur lequel je suis rattaché le plus souvent. Donc, pour l'Université de Poitiers, il y a une ESP à l'Université de La Rochelle, avec laquelle on travaille, puisque dans le cadre du PRESS, effectivement, on développe des maquettes qui sont communes. Donc, tout ça pour vous dire que, si vous voulez, moi, l'entrée qui va être la mienne ici va plutôt être l'entrée... Alors, sensibilisation, éducation, formation. J'allais presque dire que mon cœur de métier par rapport à ces problématiques, c'est celui qui privilégie l'entrée formation. Puisque quel est mon public, j'allais dire, dans ce domaine-là? Ben, d'une façon générale, à l'ESP, ce sont des étudiants qui se destinent au professorat des écoles, au professorat des collèges et des lycées, ou alors des enseignants, des professeurs qui viennent en formation continue, dans le cadre de stages, etc. Donc, formation à quoi? Alors, j'ai employé ce qui ressemble à un gros mot depuis hier, semble-t-il, c'est formation au développement durable. Puisque donc Jean-Paul Deléage a évoqué cet oxymore, effectivement, qui qui pose effectivement pas mal de problèmes. Et donc c'est vrai que après un gros succès médiatique, politique autour de l'expression développement durable, il semblerait que désormais on l'emploie de plus en plus rarement, ou enfin bon, effectivement c'est devenu un petit peu compliqué. Alors il reste que moi, par rapport à ce public auquel je faisais allusion, d'étudiants, de professeurs stagiaires ou professeurs confirmés, mais moi j'ai à les former au développement durable. En tout cas, c'est le système éducatif, l'éducation nationale, encadre effectivement tout ce qui relève de la formation et de l'enseignement, et donc on se réfère à des textes qui incitent donc tous les enseignants de tous les degrés et de toutes les disciplines à éduquer leurs élèves au développement durable. Donc on parle de EDD. Donc moi, je suis à un autre étage de la fusée. Mon job, j'allais dire, c'est de les former à éduquer au développement durable. Hein, puisqu'on est juste à l'étage au-dessus, au niveau de la fusée. Alors effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est vrai que jusqu'au début du 21e siècle, on éduquait à l'environnement. Hein, donc il y avait un grand texte qu'on a un peu considéré comme la charte fondatrice en France de l'éducation à l'environnement. Donc c'était EE, hein, depuis la fin des années 60, années 70. C'est évidemment produit d'un contexte particulier de... Pour le dire vite, on peut dire que la fin des années 60, le début des années 70, ont vu émerger une nouvelle forme de demande sociale, enfin en tout cas sous cette forme-là, une forme sociale, une forme de demande en matière d'environnement, en matière d'écologie, et puis ça s'est traduit à différents niveaux, au niveau politique, avec la création d'instances, hein, de ministères, de secrétariats, etc., dans différents pays, donc le ministère de l'Environnement en France. Et bien sûr, ça se traduit dans les systèmes éducatifs. Alors, on a parlé pour cette période, années 60-70, de prise de conscience de l'humanité. Bon, on se calme. C'est une prise de conscience qui est effectivement limitée aux pays industrialisés, aux pays développés du Nord, dans lesquels il y a eu effectivement des mouvements, donc des grandes démocraties, si vous voulez, dans lesquelles une opinion publique s'est exprimée. Bon, c'est plus compliqué que ça, c'était effectivement médiatisé, etc. Bon. Donc ça, c'est le contexte, et ça a produit, j'allais dire, ce texte qu'on a considéré comme la charte fondatrice en France de l'éducation à l'environnement. Et alors, 2004, j'allais dire, un nouveau texte a surgi, et les premiers mots sont « ce texte remplace celui de 1977 », et désormais, il fallait faire, hein, puisqu'il y a de l'injonction dans le domaine éducatif, mais c'est normal, hein, toute l'activité des enseignants est encadrée par des instructions officielles qui définissent les programmes, les missions, etc. Et donc là, c'est devenu EEDD, c'est-à-dire hein, c'est de l'éducation à l'environnement pour un développement durable. Autrement dit, la finalité de l'éducation à l'environnement est devenue, par une sorte de glissement comme ça, à la fois conceptuel mais aussi rhétorique, est devenue de l'éducation à l'environnement dans la perspective du développement durable. Donc on a parlé de EDD. Et puis, donc on a parlé de plan triennal. Donc on est en 2007, le EDD est devenu EDD. Donc il y a un E qui a disparu. Évidemment, ces différents glissements n'ont pas été sans poser beaucoup de problèmes par rapport aux éducateurs et aux formateurs qui étaient sur une logique éducation à l'environnement, l'environnement étant considéré comme l'objet auquel on éduquait. Alors, c'était déjà complexe puisque l'environnement, au départ, c'était un concept disciplinaire qui avait été inventé par des géographes au tout début du XXe siècle. Puis ce concept disciplinaire a été un petit peu... c'est un concept nomade, si vous voulez. Il a un petit peu été approprié par différents champs, urbanisme, art, design, etc. Et dans les années 70, c'est devenu hyper polysémique. Il y a un géographe qui avait écrit un ouvrage sur l'environnement au début des années 70, Pierre Georges, qui disait le terme environnement est éminemment polysémique. Donc, effectivement, à un terme extrêmement polysémique, on a ajouté une expression oxymorique ou donc on a rajouté de la complexité à la complexité. Effectivement, ça, ça a été un peu délicat à gérer et il y a eu des frottements, je dirais, dans la mesure où on s'est dit bah oui, mais maintenant voilà, la problématique environnementale est passée à la trappe. D'autres disant mais non, le modèle développement durable intègre évidemment la problématique environnementale puisqu'on a les questions écologico-environnementales, économiques, sociétales, les questions de gouvernance, etc., sont intégrées donc dans un modèle tout à fait complexe. Et effectivement, tout ceci est fédéré par une expression qui pose effectivement un certain nombre de problèmes. Donc une fois encore, rhétorique, mais qui cache des problèmes conceptuels, mais aussi des problèmes de mise en œuvre. Alors donc, mon entrée, effectivement, si je revendique une expertise dans la matière, c'est plutôt dans le domaine de la formation. Donc mon entrée va être plutôt effectivement de l'entrée formation. Alors, je vais dire au développement durable. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie effectivement qu'on va privilégier des thématiques. Alors, peut-être que les lycéens, lycéennes que vous avez été se souviennent peut-être de thématiques ou d'enjeux ou de défis sur lesquels ils ont travaillé. Peut-être dans le cadre de ce qu'on appelle les TPE au lycée, les travaux personnels encadrés. Bon, peut-être des thématiques. Alors, voilà. Alors, on a effectivement des thématiques, l'énergie, la biodiversité, l'habitat. Le transport, donc on a d'une certaine façon dans ces journées-là ciblé des thématiques ou des défis ou des enjeux qui peuvent être considérés, là je l'ai, c'est une manière de les considérer ainsi, comme des enjeux du développement durable. Parce qu'on va parler maintenant, alors on va parler de biodiversité durable. On substitue développement durable on garde durable souvent maintenant, et puis on dit voilà, biodiversité durable, habitat durable, mobilité durable, comportement durable, etc. Donc, parmi les thématiques qui sont effectivement développées et sur lesquelles on peut intervenir dans le domaine de la formation des enseignants ou des futurs enseignants, on a effectivement la thématique de la ville, la thématique de l'habitat, et l'incitation sur le plan méthodologique est liée à des démarches de projet, c'est-à-dire que on caresse l'espoir que les enseignants ainsi formés, arrivés dans leurs établissements scolaires, collèges, lycées, écoles, vont monter des projets. Hein, on est dans une démarche de projet et les tout derniers textes parlent de démarche E3D. On aime bien les acronymes, etc. Donc c'est un E3D, c'est un établissement ou une école en démarche de développement durable. Donc on est sur ces démarches-là, sur ces logiques, et on est effectivement sur ces thématiques-là. Alors bien sûr, il y a plusieurs manières d'aborder ou d'entrer dans une thématique. Donc ici, celle de l'habitat, de la ville, on peut évidemment créer des situations de formation, et puis aussi on peut prendre le parti d'illustrer. Donc là, ce que j'ai choisi là, c'est plutôt d'être illustratif, et ça va pas être effectivement une conférence très formelle autour de ces enjeux-là que je vais décliner. Une fois encore, il y a des expertises que je n'ai pas qui peuvent effectivement, auxquelles on peut effectivement renvoyer. Mon objectif ici, c'est effectivement d'illustrer ça au travers de quelques exemples. Alors le premier exemple, Anne l'a dit, c'est en s'appuyant sur une vidéo. Donc alors c'est une série de vidéos. Alors il s'appelle voilà les réalisations du développement durable. On a différents exemples. Alors donc j'ai pris Malmö en Suède, mais il y a d'autres exemples sur lesquels je m'arrêterai quelques instants qui sont peut-être plus connus comme Fribourg. Alors Betzel, et puis je terminerai également par une allusion à ce qu'on appelle les écoquartiers, puisqu'il y a désormais un label qui est décerné avec donc un cahier des charges et un respect d'une sorte de cahier des charges qui peut permettre à certains quartiers d'avoir ce label. Il y en a un à Poitiers. Au début, l'association 4D, j'y reviendrai, c'est simplement parce que c'est l'association qui a participé à la réalisation du film que vous allez voir. Voilà, donc on se retrouve dans 8 minutes.
La ville de Malmö est située au sud de la Suède. Elle compte près de 300 000 habitants. C'était autrefois une ville industrielle. Maintenant, ses activités sont plutôt orientées vers la culture, l'éducation et les technologies de l'information. Nous souhaitons prendre en compte les trois dimensions du développement durable, le social, l'écologie et l'économie. Souvent, lorsque nous évoquons le bien-être, nous pensons au développement économique et à l'équité sociale. Nous ne devons pas oublier les aspects liés à l'écologie.
Ces objectifs ont été transcrits par la municipalité dans un agenda 21 local, au tout début des années 1990.
En matière de déplacement, nous nous efforçons de mettre en place un système basé sur l'intermodalité. Ainsi, il est possible d'utiliser plusieurs modes de déplacement : vélo, transport public, location de voiture. Nous souhaitons disposer d'un système peu polluant, satisfaisant pour la santé, moins consommateur de ressources et plus silencieux. À Malmö, 52% des déplacements s'effectuent en auto, 20% à vélo, 13% en bus ou en train et 13% à pied. Nous avons fait le choix d'avoir des bus peu polluants. Le combustible est le gaz naturel. À l'avenir, les bus rouleront avec du biogaz. L'amélioration des infrastructures et l'information des usagers ont permis à tous de se déplacer plus vite. Plusieurs réalisations faciliteront les déplacements. Tout d'abord, l'aménagement d'une voie ferrée souterraine qui desservira le centre de la ville. Nous créons aussi de nouvelles pistes cyclables chaque année. Aujourd'hui, il en existe 390 km. Vous voyez, nous proposons des solutions variées. Extension des pistes cyclables, choix de matériel de transport peu polluant, location de voiture selon la formule de l'autopartage.
La municipalité encourage des entreprises à acquérir des vélos pour leurs salariés qui les utilisent pour des déplacements professionnels. Sur 200 entreprises sollicitées, 50 ont répondu positivement et plus de 100 bicyclettes ont été achetées. Au nord-ouest de la ville, la municipalité a érigé le quartier Bou 01 en lieu et place de l'ancienne zone portuaire et industrielle. Pour les promoteurs, il s'agit d'une ville au service de l'homme et de l'environnement. Ce nouveau quartier, qui comporte quelques 700 logements, est conçu de la façon la plus durable possible, principalement d'un point de vue écologique. Les nombreuses réalisations ont permis d'avoir des sources d'énergie renouvelables, d'économiser l'énergie, de mieux gérer les déchets, de réduire la circulation automobile et de disposer d'un bon service de transport public. Les besoins en énergie du quartier sont totalement couverts par des sources d'origine renouvelable. Solaire, éolien, hydraulique. De plus, il est prévu que la consommation énergétique des habitations n'excède pas 105 kWh par mètre carré et par an. La prochaine étape sera la construction de 700 logements qui seront loués à des prix très abordables. Ces constructions seront néanmoins réalisées en tenant compte des exigences du développement durable. D'ici 2 ans, une nouvelle école publique sera construite, ainsi que des logements pour des étudiants et des personnes âgées. Quant aux quartiers anciens, certains sont réhabilités. C'est le cas de celui d'Augustenborg. Au cours des années 1990, les difficultés s'accumulaient. Taux de chômage élevé, déclin économique, dégradation de l'environnement, fréquence des inondations. La municipalité a réussi une opération de rénovation urbaine exemplaire. Elle a créé un parc et construit un réseau de drainage. 9000 m2 de toiture végétalisée contribuent à l'absorption des eaux de pluie, à l'isolation des bâtiments et à l'augmentation de la biodiversité. Cette opération de rénovation comporte d'autres aspects. Réhabilitation de 1800 logements, aménagement d'aires de jeu pour les enfants, organisation de formation, création d'activités économiques. Les habitants ont été étroitement associés à cette opération. La municipalité accorde une grande importance aux aspects sociaux. Les personnes sans domicile peuvent, si elles le souhaitent, bénéficier d'un logement. Elles doivent cependant renoncer à l'alcool et à la drogue. De plus, des actions sont engagées dans des quartiers défavorisés.
Notre quartier se situe dans un district qui s'appelle Sodrel-Nonstone, qui est considéré comme zone défavorisée. Nous avons à peu près 4400 habitants, dont 33% vivent grâce à l'aide sociale. Le taux de chômage est de 17%. Nos actions s'organisent autour de trois grands axes. Le premier est celui des jeunes, leurs loisirs, l'école, l'éducation. Le deuxième est celui de la santé et du bien-être. Et le troisième concerne ce qui est en relation avec le quartier et l'habitat, l'état des rues, des parcs, etc. Il est important que les réalisations dans le quartier soient visibles. Nous avons rénové un parc de jeux pour les enfants. Nous avons installé des grilles à des entrées d'immeubles pour améliorer la sécurité. Et puis, à notre point de rencontre, nous apportons une aide administrative aux habitants. Les aspects les plus importants dans notre travail sont l'approche citoyenne et la participation des habitants. Nos actions répondent vraiment aux besoins de chacun.
La municipalité de Malmö soutient des actions d'éducation au développement durable, à l'image de l'association See You, qui aide les jeunes à découvrir l'environnement marin. En 6 mois, 30 000 enfants ont bénéficié d'une animation. L'expérience de Malmö se poursuit, mais il faut faire face à certaines difficultés.
Une des principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés est le manque de coopération entre les différents services. Chaque service a sa propre culture, sa propre façon de fonctionner et de penser. Nous cherchons des solutions à cela. Plusieurs quartiers de Malmö ont leur propre conseil municipal. Cela renforce la démocratie et permet d'associer les gens à la prise de décision. On constate que les habitants se mobilisent lorsqu'un projet concerne leur quartier ou bien leurs enfants, mais il est parfois difficile de les intéresser à des sujets plus généraux. Concernant la durabilité écologique, il est important de préserver la qualité de l'air et de l'eau douce. Sur le plan social, je souhaiterais que tous les enfants de Malmö suivent une bonne scolarité. Que leurs parents ne soient pas inquiets au sujet de leur emploi futur ou de leur situation financière. Et puis aussi que chacun ne se préoccupe pas seulement de sa condition de vie, mais se sente concerné par le bien-être de tous.
Comment je reprends la main là-dessus, moi? Bon, alors, évidemment, oui. Évidemment, ce type de film a toujours un petit côté promotionnel, hein, et immanquablement, et il est important, dans le cadre d'une formation en particulier, de déconstruire le discours et puis d'essayer d'aller un petit peu au-delà de ce côté publicitaire, j'allais dire. Alors... Vous avez vu que, je voulais dire juste quelques mots de l'association 4D qui a produit ce film. Donc c'est 4D, c'est Dossier et débat pour le développement durable. Donc c'est une association qui a été créée dans la foulée du sommet de la Terre. Alors ça permet de rappeler une histoire assez connue et récente. Donc effectivement, le premier de la, sommet de la Terre, Rio 92, puis les autres sommets décennaux, Johannesburg 2002, puis à nouveau Rio 2012. Alors le 4D, donc, j'allais dire, est un produit de Rio 92, pardon pour le dire comme ça. Et donc c'est une association qui essaye de développer des actions autour de trois termes qui sont à la fois des références et des slogans. Alors, autour de respect, intelligence et partage. Alors, évidemment, le film qu'ils ont produit, l'expérience de Malmö, illustre, selon l'association, effectivement ces trois aspects qui sont centraux dans la mise en place de villes ou de quartiers durables. Alors, respect, rapidement, respect de quoi ? De la nature, de l'environnement, évidemment, mais également respect des droits humains. On peut parler d'une approche humaniste du développement durable. Il y a d'autres approches qui ne le sont pas forcément toujours. La question du partage, alors partage des ressources, des moyens, des décisions. Il a beaucoup été fait allusion dans le film à la démocratie locale, à l'exercice de la citoyenneté locale. Donc là, c'est cela qu'ils mettent derrière le mot partage. Alors intelligence qui est du côté, j'allais dire, de la technique, hein, maîtrise de la technique et de ses effets, comportement non destructeur, hein, une maîtrise intelligente de la technique et de ses effets, c'est également une maîtrise de ses effets potentiels, efficacité, pas seulement monétaire, précise-t-il, éthique et principe de responsabilité. Et je voudrais m'arrêter aussi quelques instants sur cette notion de responsabilité. Et j'y repensais dans le train ce matin, à nouveau, par rapport au petit débat ou au petit échange qui a eu lieu hier matin avec Jean-Paul Deléage sur la question des catastrophes. En disant, bon, effectivement, quelquefois, il ne faut pas espérer, disait-il, des catastrophes, mais peut-être que certaines fois, les catastrophes peuvent déclencher des prises de conscience et des réalisations nouvelles. Je pense qu'il y a un économiste qui s'appelle Serge Latouche qui évoque, lui, des catastrophes pédagogiques. Alors, effectivement, c'est un peu effrayant de se dire qu'on va mettre en place des modèles plus durables parce qu'on vit des catastrophes. Mais, et cette approche, un petit peu, j'allais dire, par rapport à la responsabilité, par rapport à la place de la catastrophe, m'a fait penser à nouveau, j'allais dire, à Hans Jonas, qui est un historien et philosophe allemand qui a beaucoup inspiré le mouvement vert allemand et qui a développé une éthique pour la civilisation technologique, dit-il, en disant voilà, et a posé le principe responsabilité. Alors, qu'on trouve traduit, même au niveau en matière de droit, avec le principe de précaution. Alors on pourrait discuter effectivement du lien qu'il peut exister entre principe responsabilité et principe de précaution, mais effectivement, donc, j'ai pris cet extrait-là donc, de l'ouvrage de Hans Jonas, agit de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Alors évidemment, il y a une approche catastrophiste qui était reprochée à Jonas en disant, le principe qu'il défend, c'est on ne peut pas mettre en place une innovation technologique si on n'a pas maîtrisé tous ses effets et il faut toujours envisager le pire. C'est-à-dire, si on met en place une innovation, on imagine le scénario le plus catastrophique et on met en place des dispositifs, des systèmes, d'autres technologies qui permettent d'éviter cette catastrophe-là. Alors, évidemment, on a dit que Hans Jonas était hostile au progrès, et lui disait non, en réalité, c'est une approche qui stimule encore plus l'innovation et le progrès, puisqu'on ne mettra en place la technologie que si on en maîtrise tous ses effets. Alors, vous doutez bien qu'en matière de nucléaire, si on avait appliqué ce principe, on n'aurait pas effectivement ce système de production d'énergie. Donc là, c'était par rapport à la notion de responsabilité et de également par rapport au modèle Malmö. Alors,
La catastrophe, alors, il y a catastrophe et catastrophe. Quelle a été la catastrophe vécue par Malmö, ça a été effectivement une désindustrialisation, un démantèlement. Oui, juste Malmö, ça se trouve là, hein, au sud, de, ici tout à fait au sud. Et il y a, en 2000, justement, il y a un pont qui a été construit et qui relie Malmö à Copenhague. C'est un pont qui fait pratiquement 2 km, 1700, 1800 mètres. Et qui a permis effectivement de désenclaver l'île. Alors c'est un peu, je dirais que ce très beau pont est un petit peu symbolique du désenclavement et puis d'un changement de politique et une reconversion de la ville, puisque effectivement la ville était un port industriel, et ça c'est une photo des années 80-85, et donc désindustrialisation, je passe sur les raisons pour lesquelles il y a eu le démantèlement des chantiers navals, crise, donc chômage record pour une... Alors, c'est la troisième... Alors, 250-260 000 habitants, mais donc c'est la troisième agglomération en termes de population de Suède. Et donc, effectivement, il y a une crise, une catastrophe économique, une catastrophe sociale, et alors, on pourrait parler de catastrophe pédagogique, puisque effectivement le désenclavement de la ville, l'ouverture de nouveaux débouchés et l'ouverture au développement durable, pour le dire comme ça, est effectivement produit par cette catastrophe-là, et donc avec le modèle qui est développé ici. Alors ça, ce sont évidemment des modèles qui se veulent des prototypes, les concepteurs et les pilotes du projet disent effectivement, est-ce que le modèle Malmö est exportable? Alors c'est tout le problème des modèles. Alors, est-ce que l'expertise qui est développée dans le cadre de ces projets est transférable? Quelles sont les conditions favorables à une telle démarche? Alors, est-ce qu'on peut parler de modélisation ou de modalisation? Peut-être que les modalités, les démarches, effectivement, peuvent être transférables à d'autres situations. Ça, on peut effectivement en discuter. Il existe, comme vous le savez, d'autres modèles qui se veulent également des prototypes ou qui se veulent transférables ou qui ont vocation à être transférés, qu'il s'agisse de villes ou de quartiers. Il y a effectivement alors un prototype de quartier, je dirais, durable qui est assez connu, c'est BZ, donc au sud de Londres. Hein, donc là aussi, il y a dans la même série des vidéos, les réalisations du développement durable, on a donc l'exemple de BZ et puis celui de Fribourg. Donc là aussi, voilà, en 2000 a été créé un quartier écologique. Vous connaissez sans doute cet exemple-là. Alors, ce qui me paraît intéressant ici, c'est la réflexion que cela peut susciter chez chacun d'entre nous sur sa manière d'habiter, sa manière de vivre en ville, puisque là, on a... Alors, le principe de mixité sociale, on a, vous connaissez sans doute ces images de cet éco-quartier durable au sud de Londres, donc Beddington Zero Energy Development, qui se veut pilote. Donc, effectivement, on associe habitat, bureau, il y a des serres, des jardins au-dessus des bureaux. Et ce qui frappe, enfin, moi, ce qui me frappe ici et qui, quelquefois, provoque des réactions chez des personnes auxquelles on présente ce modèle-là, c'est de dire, bon, voilà, on est sur quelque chose de compact et de danse, avec un institut de formation ici qui est sur les Deux-Sèvres, on appelle l'IFRE, Institut de formation de recherche en éducation à l'environnement. On avait organisé un séminaire il y a un an et demi à Poitiers sur la ville durable. Alors, on disait finalement, qu'est-ce qu'une ville durable ? Et un certain nombre d'intervenants, d'urbanistes, etc. Mais finalement, la ville durable, ce serait sans doute une ville dense ou une ville compacte. Donc là, on a une certaine compacité, on a une mixité sociale, une mixité fonctionnelle, mais est-ce que cela répond au désir d'habitat de chacun d'entre nous ? Alors, si vous faites une enquête comme ça, j'allais dire à la volée, et que vous demandez aux personnes, mais finalement, ton habitat idéal, c'est quoi ? Eh bien, dans une grande majorité des réponses, vous aurez la maison individuelle sans mur mitoyen, entouré par pelouse, jardin, arbres, etc. Mon bac à sable pour mes enfants à moi et pas ceux du voisin. Enfin, bon, je caricature un petit peu, mais on est effectivement sur des modèles de ville qui impliquent un étalement urbain avec tout le coût induit en matière de transport, de déplacement, de système d'adduction, enfin, tous les fluides, enfin, etc., etc. Donc, on a peut-être à travailler notre désir d'habitat et je pense que ce type de modèle nous y invite. Alors après, on peut, il y a des effectivement aussi le côté esthétique, le côté ça, c'est ce qui est en haut, c'est ça, ce sont des systèmes d'aération. Pardon. Non, je trouve ça marrant, moi. Enfin bon, bref. Bon, voilà. Hein, donc. C'est vrai que justement quand on préparait ce colloque sur la ville, moi en forçant un petit peu le trait, je disais mais moi j'habite au 7e étage d'un immeuble de 15 étages et je suis très content de ne pas être en maison individuelle. Et j'étais le seul apparemment autour de la table à être très content de ça. Chacun était finalement plutôt sur l'idée de la maison à la campagne. Alors en plus, avec une espèce de paradoxe intéressant qui a été construit dans les années 60-70 avec les villes nouvelles, la ville à la campagne, je veux bien qu'on m'explique. Voilà, donc je fais exprès hein, d'être un peu provocateur là. Mais, donc il y a à repenser. Alors, repenser la ville, vous parliez d'acceptabilité tout à l'heure. Alors oui, dans les sciences humaines et sociales, moi je fais partie d'un laboratoire de géographes ici, hein, le laboratoire ruralité qui était ICOTEM ici. Et mes collègues géographes abordent très facilement ces notions d'acceptabilité. Maintenant, enfin, voilà, il travaille sur l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité des citoyens en matière d'innovation, etc. Et peut-être c'est un terme qui commence à devenir un petit peu moins tabou chez les... Oui, c'est ça. Mais ça, bon, eux aussi, comme bon, il y a l'acceptabilité du terme acceptabilité. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. On ne fait pas d'innovation d'une façon générale en matière urbanistique ou autre sans effectivement une certaine acceptabilité, parce que bon, je veux dire, pour aller vivre là, alors ça peut être incitateur, il y a des incitations économiques, des incitations financières, mais il faut aussi avoir envie, il faut avoir le désir de vivre de cette façon-là. Il y a des formes de sociabilité, de vie de quartier qui sont complètement différentes des formes de sociabilité traditionnelles, classiques. Alors, le modèle de Fribourg, lui, qui est un peu plus ancien, hein, qui date des années 70-75, qui lui, en fait, à l'origine, c'est un rejet d'une centrale nucléaire qui a provoqué donc un mouvement et puis qui a enclenché effectivement toute cette réflexion sur la ville. Alors, il y a un certain nombre de points forts sur Fribourg et j'en ai retenu trois, alors dont un qui est mis en avant également à Malmö, c'est la participation des habitants dès le départ des projets. Mais il y a deux points que je trouve intéressants également, c'est le fait qu'à Fribourg, on a développé beaucoup plus qu'ailleurs la formation professionnelle des électriciens et des chauffagistes, parce qu'effectivement, alors vous évoquiez le Grenelle tout à l'heure, où on a effectivement traduit au niveau national des directives européennes la question de la formation professionnelle. On a beaucoup parlé à l'issue du Grenelle des emplois verts ou des emplois verdissants. Alors effectivement, un chauffagiste qui était formé à installer des chaudières au fioul ou à consommer de l'énergie fossile, s'il se forme à des installations de chauffage utilisant l'énergie renouvelable, on peut dire que son métier est un métier verdissant. Au départ, ce n'est pas un métier vert, il devient verdissant et non pas verdoyant, comme dit Anne, qui est un mauvais esprit. Voilà. Et puis, alors, et donc, du coup, deuxième volet associé à celui-là, c'est la création. Alors là, du coup, de nouveaux emplois qui, eux, sont des emplois verts. Hein, il y a des anciens emplois qui peuvent verdir, et puis il y a de nouveaux emplois qui peuvent être verts. Effectivement, il y a des chiffres que je n'ai pas ramenés ici, mais qui montrent que sur Fribourg ont été développés, beaucoup plus qu'ailleurs en Allemagne, de nouveaux emplois dits verts. Alors, le côté participation des habitants, implication, adhésion des habitants est évidemment essentiel, mais c'est à la fois le point fort et le point faible. Alors, c'est vrai qu'à Fribourg, il y a un débat sur les éoliennes. Hein, y a des, oui, ça, c'est un des quartiers, quartier Vauban à Fribourg. Bon, on retrouve, hein, évidemment... voilà, par rapport aux éoliennes, y a un débat où un certain nombre d'habitants de Fribourg considèrent que ça nuit au tourisme, au développement touristique, puisque un certain nombre de touristes critiquent ce type d'installation dans le paysage. Et puis, de la part des commerçants, mais on trouve ça dans beaucoup de villes qui prennent ces décisions-là, les questions d'accès au centre-ville, qui peut-être sont moins faciles quand on veut éliminer renvoyer les véhicules automobiles à l'extérieur de la ville. Donc c'est à la fois il y a des points forts. Alors ça, ce sont c'est tout à fait visible quand on est à Fribourg, les installations, les micro-installations hydroélectriques. Qui se trouve effectivement dans la ville. Donc ça, effectivement, on peut dire voilà, Malmö, Bedzed, Fribourg, on pourrait prendre d'autres exemples, dire voilà, ce sont, enfin, moi quand j'utilise ces exemples-là ou ces prototypes-là, je les utilise pour inviter chacun, une fois encore, à réfléchir à sa manière d'habiter, à ses désirs, ses utopies en matière d'habitat, et éventuellement à la manière dont on peut faire évoluer sa manière d'habiter, et dont les différentes stratégies qui permettraient de réduire effectivement ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Là aussi, on pourrait discuter sur le plan scientifique de ce que recouvre l'empreinte écologique. Et alors, après, ça, c'est quelque chose qui est maintenant mis en place en France depuis récemment, c'est un label. Hein, donc, il y a un certain nombre pour des éco-quartiers. Donc, ça, c'est un document donc, que j'ai consulté. Ce sont les derniers chiffres, hein, puisque j'ai consulté le site il y a quelques jours. Donc, on dénombre actuellement en France 88 chartes éco-quartiers. Quartier, 32 projets engagés et 13 projets labellisés. Donc là aussi, on réfléchit, effectivement, compacité, densité, voilà la carte des opérations labellisées et des projets L'Oréal labellisables dans les 2 ans. Alors il y a effectivement un éco-quartier. Alors c'est une affaire politique, c'est sûr. Il y a donc Cécile Duflo et Ségolène Royal étaient venus effectivement, je pense il y a 2 ans, pour effectivement visiter cet éco-quartier. Voilà, donc je m'arrête là parce que je préférerais laisser la parole à la salle pour ceux qui voudraient intervenir, réagir ou poser des questions. Oui, ça c'est juste un document. Donc on peut se procurer des documents, mais également des informations auprès des DREAL, donc Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc ici il y a DREAL Poitou-Charentes, c'est tout près d'ici, où on a effectivement la possibilité de réfléchir, de discuter des projets, d'éco-quartiers, d'éco-labels. Là il y a éco-cité, éco-quartier, éco-hameau, éco-habitat. Voilà, merci.
Des réactions, des questions. C'est toujours le même.
Bonjour, merci pour votre présentation. En fait, c'était pas tellement sur votre présentation, mais je voulais rebondir sur... hier, ce qui avait été dit à propos du développement durable, parce que j'avais pas eu le temps d'intervenir. mais je ne vois pas en quoi ça peut être un oxymore. Alors, autant ça a été utilisé à toutes les sauces, et notamment à des fins économiques comme le greenwashing ou, et tout ce genre de choses. Mais développement et durable, c'est des mots qui vont ensemble et qui ont une réalité. On ne peut pas dire que c'est un oxymore. Notamment si on pense au fait qu'on utilise de plus en plus de pétrole et que dans 50 ans, on n'en a pas. Pour moi, c'est l'inverse du développement durable. Et au contraire, si on passe dans une agriculture bio ou raisonnée qui a de moins en moins besoin d'intrants, donc de produits, et qui préserve le sol, ça, c'est du développement durable. Voilà. C'était juste par rapport à ça.
C'est intéressant ce que vous dites, puisqu'il y a, alors ils sont beaucoup moins nombreux que ceux qui analysent l'expression comme étant oxymorique, mais il y a quelques observateurs qui, alors c'est peut-être une manière de prendre le contre-pied, mais non, c'est pas oxymorique, on peut même dire que c'est un pléonasme. Et je me réfère là à une géographe, Sylvie Brunel, qui avait écrit un article, je crois que c'était dans... dans les cahiers pédagogiques, il me semble bien, qui était destiné à des enseignants, en fait. Et qui disait, mais par définition, tout modèle de développement se doit d'être durable. Donc, effectivement, ce n'est pas oxymorique, c'est pléonastique, on dit. Alors, disons, peut-être que c'est le concept de développement associé au concept de durabilité. Alors, quand on interroge quelqu'un qui est plutôt du domaine des sciences de la vie, de la biologie, qui est un peu ma formation initiale, il dit, mais par définition, aucun développement ne peut être durable. C'est-à-dire, on se réfère toujours au cycle de développement, le cycle de développement d'un individu, d'une espèce, etc. Il y a effectivement différentes étapes, et ce qui était enveloppé se développe, et puis ça a une fin. Quand on dit durabilité, on est sur quelles échelles ?
Ce point-là, il y a aussi un problème de traduction. Parce que c'est sustainable, hein, et ce n'est pas durable. Voilà. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en France, on a un peu dévié de son sens. Voilà.
Exactement. Sustainable development. Alors, au tout début, on disait développement soutenable. Et il y a eu certains observateurs qui se sont dit, mais oui, soutenable était un petit peu interprété comme soutenu. Donc, si on le pense comme développement soutenu, autrement dit, bon, on continue comme on a toujours fait. Alors, effectivement, soutenable posait un problème par rapport à sa traduction littérale. Et puis, durable, pardon.
Je pense qu'on a un vrai problème de traduction.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
En anglais, finalement, il ne se retrouve pas dans notre langue.
Du tout, du voilà. tout. Donc, on a, voilà,
on a approximé, mais
on a approximé.
C'est pas vraiment durable. Enfin, il n'y a pas que ça.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et d'où, effectivement, ces analyses en disant, oui, c'est un gadget idéologique qui... Alors après, avec le contre-pied qui est pris par ceux qui parlent de décroissance... soutenable. Donc là, après, on est dans des jeux à la fois rhétoriques et puis idéologiques autour de développement durable, développement soutenable, décroissance soutenable.
Quand on voit les exemples qui sont donnés, ce sont souvent des pays, en effet, qui s'intéressent plus particulièrement à l'environnement depuis qu'ils existent, de par leur histoire aussi, hein, on a constaté ça. Mais on se dit, c'est simple, pourquoi pas le faire ? Pourquoi on ne le fait pas ? Non, mais c'est idiot, comme. Mais voilà.
Oui, parce que bon, il se trouve que sur La Rochelle, on est. J'ai actuellement la responsabilité scientifique d'un projet qui est la reconversion d'un site militaire de 27 hectares. Donc on peut commencer à s'amuser. Et l'idée qui prévaut aujourd'hui, donc on travaille là-dessus depuis maintenant plus de 2 ans, c'est de faire de ce quartier un quartier urbain d'activité, c'est-à-dire qui mixte du logement, de l'activité tertiaire, de l'activité économique, disons, de petites sociétés, de la formation, avec un objectif pour l'ensemble du quartier, y compris la mobilité, de zéro carbone. C'est-à-dire, c'est l'objectif 2050. Quoi, voilà. Donc, je ne sais pas si on ira au bout. Hein. Pour l'instant, on est là-dessus. On travaille avec une équipe d'aménageurs qui sont d'ailleurs, dans l'équipe, il y a des gens de Fribourg d'ailleurs. Hein. Les premiers coups de pioche devraient démarrer cette année. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, vous nous présenterez ce quartier.
Ça me refait penser à BZ, où effectivement le discours autour de BZ, c'est-à-dire c'est un prototype qui, si on l'appliquait à l'ensemble de la Grande-Bretagne, permettrait à la Grande-Bretagne de s'affranchir complètement des énergies fossiles d'ici à la fin du siècle. Alors je me suis toujours demandé si c'était un objectif au sens on va l'atteindre, ou si c'était une utopie.
Je ne connais pas tous les détails de BZ, je connais bien quand même, hein. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, là, quand je parlais de cohérence, des approches en Europe. Effectivement, les Anglais ils sont positionnés sur un autre modèle d'évaluation, en fait, hein, qui est se débarrasser finalement des énergies fossiles. Voilà. Et donc, eux, ils ne parlent pas de... Enfin, c'est habituel en Europe, quand tout le monde est d'accord, que les Anglais aient une approche différente. Mais bon... Effectivement, tout le monde s'est mis d'accord là, sur le concept Nearly Zero Energy Building, et eux, ils sont partis sur un Nearly Zero Carbon. Quoi. Voilà. L'approche qui, à mon avis, est plus intéressante, mais c'est un petit peu le cadencement hein, des politiques européennes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'objectif 2020, c'est vraiment l'efficacité énergétique et l'intégration des énergies renouvelables, et l'objectif 2050, c'est la décarbonation. Je ne sais pas si c'est un... Très, très français, mais bon, hein, c'est abandonner finalement, l'énergie carbonée. Quoi. Voilà. Ça, c'est l'objectif 2050, et il y a plein de choses qui vont arriver là, dans les années qui viennent sur ce sujet-là.
Bon, merci beaucoup, merci à tous nos intervenants. On se revoit dans un quart d'heure. Merci.